poursuit dans la deuxième phase de cette conférence de presse. Évidemment, comme vous le savez, l'occasion faisant le larron, nous poursuivrons un peu au-delà des horaires prévus après avoir rendu le micro à Radio Okapi. Donc nous commençons par la séance des questions et réponses. Deux questions à Goma puisque nous y restons. S'il vous plaît, deux questions très rapidement, des questions brèves. Rapidement, Goma.
Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Gamiche Soene, je travaille pour Deutsche Welle. Ma question s'adresse à l'OIM, en fait. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils peuvent avoir des chiffres de certains migrants africains qui auraient été expulsés d'Israël vers le Rwanda, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu rester beaucoup de temps au Rwanda, et il y en a certains qui ont pris la direction de l'Ouganda, du Soudan du Sud. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi venus au Congo? Si oui, combien et où ils sont?
Oui, avant de répondre, Monsieur Chouzi, prenons une deuxième question tout de suite à Goma, et ensuite nous procéderons aux réponses. Une deuxième question à Goma rapidement.
Okay. Merci, c'est Mounego pour Antenna. Ma question s'adresse au colonel Martin, je vois qu'il est là. Et nous venons d'apprendre qu'il y a eu un drone de la MONUSCO qui a fait crash à Bounia en voulant décoller. On ne sait pas si on peut avoir piste d'élucidation de ces faits et un dégât matériel ou humain. Merci.
Merci à Goma. Donc, M. Chouzi, tout de suite, la parole est à vous.
Alors, on sait que de nombreux migrants africains vont vers Israël, prennent des risques pour traverser le désert du Negev. On sait qu'Israël a une politique assez ferme en ce qui concerne l'acceptation de ces migrants qui sont en situation irrégulière. Je n'ai pas de données chiffrées sur le nombre de ressortissants rwandais qui auraient été expulsés d'Israël. Cette information doit pouvoir être disponible auprès des autorités israéliennes compétentes. Je vais peut-être en dehors de cette conférence de presse prendre vos contacts, e-mail, et je reviendrai vers vous avec le plus d'informations possible. Merci.
Merci donc, mon colonel.
Oui, merci
beaucoup. Concernant le drone.
Et effectivement, ce matin, aux environs de 5 heures, l'un de nos drones est tombé à Bounia, à 3 km après la piste d'atterrissage. Et nos troupes sont allées sur le terrain et les investigations sont en cours, mais il faut considérer que c'est comme tout autre accident naturel, ça peut arriver. Merci beaucoup.
Ah oui, peut-être juste pour rappeler qu'il n'y a pas eu de morts, encore moins de blessés, parce que cet aéronef sans pilote a crashé dans une zone inhabitée. Donc nous revenons tout de suite à Kinshasa pour prendre deux questions, une à droite, une à gauche. Donnez le micro rapidement.
Guy Oloume, RTNC de développement. Ma question s'adresse à M. Jean-Philippe. Il y a actuellement en RDC beaucoup de déplacés internes qui migrent vers une ville à une autre, fuyant de fortes inondations dues au réchauffement climatique. Alors, quelle politique, quels moyens logistiques et financiers dont dispose votre structure mettez en place pour pallier à ces fléaux du siècle?
Merci. Une deuxième question là sur la gauche. Donnez le micro tout de suite. Oui.
Qui est Remaille de l'agence congolaise de presse. Je suis surpris par Mme Taz. Elle dit que sur 900 membres de M23, 12 seulement ont regagné. Or, les M23 avaient un délai de grâce jusqu'au 15 décembre, hier. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelles sont les mesures que vous, en tant que MONUSCO, vous prenez en accord avec le gouvernement éventuellement?
Oui, donc merci. Avant qu'on ne reparte à Goma pour rejoindre Mme Taz, donc Monsieur Chouzi.
Alors, brièvement, nous travaillons avec nos partenaires des agences des Nations Unies. Nous essayons de voir aussi avec nos partenaires de la société civile quel genre d'action on pourrait entreprendre en appui aux populations qui sont aujourd'hui affectées par les inondations. Ceci dit, l'OIM est financé sur la base de projets, donc nous sommes en train de voir un petit peu aussi du côté des bailleurs de fonds si nous pouvons obtenir des financements pour pouvoir intervenir auprès de ces populations sinistrées. De manière plus générale, vous savez que la COP21 s'est terminée ces derniers jours. Nous sommes particulièrement heureux de voir que l'impact du changement climatique sur les mouvements de population, sur les migrations humaines a été prise en compte. Ce que l'on dit depuis des années, c'est que la migration est une forme d'adaptation au changement climatique, et le fait que la migration et l'impact de ces changements climatiques sur les mouvements de population soient inclus dans le texte final, pour nous est extrêmement positif et ouvre la voie à une réflexion et à des actions beaucoup plus pertinentes par rapport à nos interventions d'adaptation migratoire par rapport à ces changements climatiques. Merci.
Oui, merci. Donc, direction Goma, mais avant de passer la parole à Tass, je voudrais juste rappeler à mon collègue que ce délai qui avait été donné au M23 du 1er au 15 n'est pas de la seule responsabilité de la MONUSCO. La MONUSCO apporte tout son soutien. Mais rappelez-vous qu'après la réunion de Luanda, il y a eu celle de Kinshasa qui a eu lieu il y a quelques semaines ici, où les ministres de la Défense étaient réunis et ce délai avait été accordé. Donc, le M23 est une problématique d'ordre général qui concerne aussi bien la République démocratique du Congo, les pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mais aussi la SADC. Donc Tass, je vous passe tout de suite la parole pour répondre à la préoccupation de notre confrère ici à Kinshasa.
En fait, ma réponse a été le vote Félix. Un autre rôle, c'est un rôle d'appui. Donc c'est les gouvernements régionaux, c'est la communauté des régions de Grand Lac qui mène le processus. En ce qui concerne cette groupe, on donne les conseils, on soutient au niveau logistique et on soutient au niveau sensibilisation, repatriement, liaison avec les différents gouvernements. Et notre conseil, c'est que les trois gouvernements, Rwanda, Ouganda et Congolais, se réunissent pour aborder le sujet des obstacles et pas de repartiment pour résoudre cet obstacle avant de recommencer le repartiment.
Merci, nous serons dans l'obligation de remettre l'antenne à Radio Okapi, mais nous poursuivons cette conférence de presse pour encore 15 à 20 minutes compte tenu du retard qu'on a pris lors des présentations. Je signale que je vois d'ailleurs à Goma un représentant du bureau conjoint des Nations Unies, Monsieur Kodjo, pour des éventuelles préoccupations d'ordre droits humains ou droits de l'homme. Donc nous restons toujours à Goma, prenons deux questions puisque nous y sommes. Deux questions à Goma, s'il vous plaît, très rapidement.
Oui, c'est une question de la troisième.
On vous entend mal. Ouvrez le micro et parlez plus fort.
Human Rights Watch. Human Rights Watch vient de publier un rapport sur les kidnappings au Nord-Kivu, surtout dans le territoire de Rutshuru. Ils disent qu'ils ont documenté 175 enlèvements depuis plus de mois. Quelle analyse fait la MONUSCO des causes de cette population de kidnapping? Et quel appui MONUSCO a pu apporter aux CFADC et autres services de sécurité contre ces kidnappings?
Oui, Goma.
Oui, il a posé une question au Félix. C'est pas qui l'a adressé, si c'est le porte-parole ou bien porte-parole.
Oui, on l'a pas entendu. Voulez-vous. Pardon? Oui.
Oui, il parle de kidnapping à Rutshuru. Une augmentation de kidnapping, 163 documenté par Human Rights Watch. Qu'est-ce que la MONUSCO fait pour remédier la situation ou bien avec l'État?
Oui, merci. Donc, juste pour dire que vous avez parfaitement raison de soulever cette question, parce qu'elle a fait l'objet d'un dernier rapport du Human Rights Watch concernant cette série d'enlèvements. Vous avez raison, parce que depuis un certain temps, particulièrement dans le territoire de Rutshuru, il y a eu un peu cette recrudescence des enlèvements constatés ça et là, et vous n'êtes pas sans ignorer non plus que même des travailleurs de la section antimine de la MONUSCO, mais les travailleurs aussi, ceux qui s'activent dans l'humanitaire, aussi bien nationaux qu'internationaux, ont déjà fait l'objet d'enlèvements ou ont été victimes de ces groupes armés. Mais je veux tout simplement rappeler que cette série d'enlèvements pourrait aussi bien être imputable aux groupes armés, mais aussi à des bandits, car comme vous le savez, il y a une forte circulation d'armes légères dans cette région du Rutshuru, et que récemment encore, la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité s'étaient accordés sur un mode opératoire afin de mettre un terme à tous ces enlèvements. Et aussi, vous conviendrez avec moi que depuis un certain temps, on a vu une baisse significative de ces enlèvements. Le problème de ces enlèvements réside aussi dans le fait que face à la pression de ces bandits ou de ces groupes armés, les populations sont souvent tentées de payer des rançons, ce qui bien sûr n'aide pas justement à la réduction de ces enlèvements. Mais nous travaillons en étroite collaboration sur le terrain avec les forces de défense et de sécurité, parce qu'au-delà des forces des forces militaires, il faut aussi une action de présence de la police dans certaines localités qui sont choisies par ces bandits pour commettre leurs forfaits. Donc merci beaucoup. Donc nous prenons une deuxième question à Goma, je pense, avant de revenir ici très rapidement. Goma.
Oui, merci pour la parole, c'est un honneur, mon droit.
Parlez plus fort, s'il vous plaît.
Je disais, c'est Norbert Mouindoula pour la radio-télévision Gabon. Madame Taz, vous venez de défendre les femmes malgré les difficultés. Pouvons-nous savoir concrètement qui sont ces minorités dont vous venez de parler là?
Donc j'ai quelques chiffres, pas tous les chiffres, mais je parle des minorités, le mineur, c'est mineur.
Le minorité qui défend à ce que le projet puisse avancer de l'avant. Votre programme plutôt dès 3 heures.
Bon, il y a un groupe d'une environ trentaine de personnes à Kampala et aussi à Bihanga, M23. Il y a certains individus à Kamina et Kitona qui sont déjà démobilisés. Et voilà, ça c'est un groupe de gens qui essayent de dérouler le processus. Et concernant ceux qui sont au Rwanda, Uganda, ça va être un travail intergouvernemental pour écarter et résoudre cette influence. Et autres individus et groupes qui embêtent les efforts du DDR, c'est surtout le FDLR. Ils sont un peu partout, mais nord et sud Kivu. On voit l'état des redditions et les blessés, les conséquences pour les familles. Donc, ils sont un peu dispersés dans les provinces, mais ils essayent d'empêcher ceux qui veulent rentrer au DDR au niveau individuel et faire les fausses campagnes médiatiques et aussi diplomatiques pour promouvoir l'idée que le DDR, c'est en fait un programme de cantonnement, ce qui ce n'est pas.
Oui, merci Taz. Donc, retour tout de suite à Kinshasa pour prendre deux questions. Mais je rappelle à nos confrères que Sylvestre Ntouba Moudingaï, qu'on n'a pas vu très longtemps, et qui, malgré ses deux paniers pleins d'informations, est au chômage. Donc, prenons tout de suite une question là-bas, au fond, sur la gauche, avant de prendre sur la droite. Oui, rapidement, une deuxième question.
Vous attendez l'autorisation, merci.
Allez-y,
oui. Symphorien Katumba, l'explorateur. J'ai une préoccupation, monsieur Tsutsi. Je ne sais pas si j'ai mal prononcé votre nom, viens m'en excuser. Votre institution a une charge de l'humanité qui pèse sur vos épaules pour venir au secours aux immigrés et qui errent dans le monde entier. Quelle est votre politique qui va faire en sorte que l'exode des immigrés soit stabilisé dans le monde entier? Je vous remercie.
Notre action va au-delà de l'humanitaire. Nous avons une action de plaidoyer aussi pour vraiment faire passer le message que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde en migration et que cette migration va continuer. Les flux migratoires vont s'intensifier et les gens vont migrer pour diverses raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient liées au changement climatique, qu'elles soient liées au conflit, qu'elles soient liées à l'état même de l'économie. Donc notre plaidoyer, c'est aussi pour souligner la contribution positive de la migration et des migrants aux sociétés. Et c'est un aspect qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne retrouve pas beaucoup dans les discours politiques de par le monde. où, comme je l'ai dit, les migrants sont souvent tenus comme boucs émissaires de ces temps de crise. Donc nous avons, en tant qu'organisation intergouvernementale, le pouvoir de travailler avec nos États membres, d'influencer le discours migratoire pour faire en sorte, eh bien, que cette migration soit considérée comme une richesse et non pas comme, malheureusement, quelque chose, comme un fardeau, comme on le considère aujourd'hui. Donc ne voyez pas uniquement l'OIM en tant qu'organisation humanitaire qui intervient dans des pays comme la RDC. Considérez que l'OIM est une organisation globale qui est présente dans de très nombreux pays dans le monde et qui a une action de plaidoyer et de renforcement des politiques migratoires avec, encore une fois, le droit des migrants au centre de toutes nos préoccupations.
Merci. Une deuxième question à Kinshasa. Oui, passez le micro.
Merci. Théodore Ngandou, au compte de Télé 7. Ma question s'adresse au porte-parole civil de la MONUSCO. En votre qualité de porte-parole, aujourd'hui, c'est pratiquement la fin de l'année, c'est pratiquement une année que la MONUSCO est en train d'œuvrer. Si il vous a été demandé de dresser un bilan de l'action de la mission onusienne pour cette année, comment il se présenterait selon vous, quand on sait que les opérations conjointes FARDC et MONUSCO dans l'attaque des FDLR n'ont toujours pas repris? Alors quel bilan pourrez-vous faire à ce stade?
Oui, merci. Mais convenez aussi avec moi que, compte tenu du temps qui nous reste, faire un bilan serait un peu hasardeux, dans la mesure où ça prendrait beaucoup de temps. Mais juste pour circonscrire votre question aux points essentiels, vous avez tantôt parlé de la reprise de la coopération militaire entre les FRDC et la MONUSCO, et vous savez très bien que c'est un plaidoyer que nous ne cessons de réitérer à l'endroit des autorités congolaises. Fort heureusement, le contact n'a jamais été rompu avec ces autorités, donc le dialogue se poursuit, et je le dis souvent, il est tout à fait normal que dans le cadre de nos relations qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des hauts et des bas, mais la volonté d'aplanir ces divergences existe. Elle est forte même, et c'est à cela que nous travaillons. Et que ce soit des relations conjugales, sociales, professionnelles, vous savez tout le temps qu'il y a des moments de turbulence, mais ceci ne traduit pas une forme de situation conflictuelle avec les autorités congolaises. Au contraire, nous continuons à travailler là-dessus. Maintenant, la protection des populations civiles, comme vous le savez, est le socle de notre mandat. Ceci est notre préoccupation majeure face justement à la des exactions commises par les différents groupes armés, notamment les ADF, les FDLR. Notre volonté à neutraliser ces groupes reste intacte. Cette volonté ne nous a jamais quitté tout au long de l'année 2015. Elle ira se renforçant pour l'année 2016, et nous espérons très bientôt qu'en unissant nos efforts, en mutualisant nos moyens, nous arriverons aussi, en fusionnant nos intelligences, à réduire de manière significative la menace que font peser les groupes armés sur les populations civiles. Donc voilà de manière très rapide ce que je peux vous dire concernant cette question. Donc nous prenons une autre question ici. Oui, au fond là-bas, donnez. Oui. Oui, allez-y très rapidement. Nous avons encore 5 minutes avant de mettre un terme à cette conférence de presse. Donc allez-y.
Charles Kipingani, pour le compte de magazine du Congo central, Gouvernance Plus. La MONUSCO est bien présente dans les territoires de Beni depuis un bon moment, et elle maîtrise bien la situation des atrocités que vit cette population. Et, curieusement, la MONUSCO a mis à la disposition de Beni des drones au moment où des DLR ont été attaqués. Pourquoi seulement ce retard? Et la fois dernière, la société civile de Beni, qui, à travers ses leaders, a déclaré, je cite, qu'il faut que Beni soit officiellement déclaré comme zone sous menace terroriste. Qu'en dirait la MONUSCO à cette question?
Oui, merci. Je passe la première partie de la réponse au lieutenant-colonel Amouzou, et je compléterai. Mon colonel, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Sinon, à Beni, où sont basées nos troupes de la force d'intervention, et en coordination avec les FADC, ils ne cessent jamais, de jour comme de nuit, de mener des activités militaires sur le terrain. il faut vous dire que depuis le 29 novembre dernier où les ADF ont attaqué simultanément les FADC, la population civile d'Irenguetti dans l'hôpital et autres, et la position de la force de la MONUSCO. La MONUSCO, le 1er décembre, a mené une opération contre ces éléments qui avaient attaqué la localité d'Irenguetti. Actuellement, les ADF sont disloqués. Ils évoluent en de petits groupes et très, très mobiles. Et je vais vous dire que depuis l'incident du 29 novembre dernier, je pense qu'il y a eu que deux attaques, le 11 décembre dernier et le 13 décembre passé. Et disons-nous que les FADC, appuyés par la force de la MONUSCO dans la localité de Beni, mènent des opérations, des patrouilles offensives pour pouvoir neutraliser ces ADF et protéger les populations civiles. Merci.
Oui, merci. Donc, permettez-moi de recentrer aussi la question de notre confrère. Je dirais tout simplement que votre déclaration n'est pas très exacte parce que quand vous parlez du déploiement de nos drones juste après que la MONUSCO ait été attaquée, je pense que vos informations ne sont pas correctes. Permettez-moi de vous le dire. Parce que nous avons depuis fort longtemps déployé nos aéronefs sans pilote dans cette zone-là, car comme vous le savez, nous sommes aussi bien en Ituri, dans la province de l'Ituri, que à Beni. Et d'ailleurs, ce sont ces aéronefs sans pilote qui nous ont permis de recueillir le maximum d'informations qui, comme le disait tantôt le colonel Martin, ont permis à la MONUSCO, avec les FRDC, de mener des actions significative des actions à la limite chirurgicale contre ce groupe armé rebelle des ADF. Vous avez raison de mentionner la terreur. Vous avez raison de mentionner la réaction de la société civile de Beni, qui est tout à fait légitime concernant cette menace que constituent les ADF. Oui, les ADF ont aujourd'hui un mode opératoire qui s'apparente beaucoup au terrorisme parce que c'est la terreur qui est répandue contre d'innocentes victimes et de manière extrêmement lâche, avec une cruauté sans précédent. Donc oui, l'ADF a un mode opératoire tout à fait terroriste, et nous allons, avec les FRDC et les autres forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout avec les populations civiles, parce que rien ne peut être fait sans leur concours, sans leur apport, et en plus, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc oui, nous sommes déterminés pour l'année à venir à mettre ensemble nos intelligences, mais aussi à conjuguer nos efforts pour réduire la menace que constituent les ADF, parce que il faut bien y mettre un terme de manière définitive. Oui, donc nous prenons une dernière question, hein, une dernière question ici à Kinshasa. Oui, donnez le micro à droite.
Merci, moi c'est Flavien Moussens pour les Côtes de Planète Télévision. Monsieur le représentant de l'OIM, je reviens sur le fameux opération Mbatai Mkolo, je pense.
L'opération, répétée.
Mbatai Mkolo. L'opération a été déjà effectuée de l'autre côté du fleuve Congo, contre nos compatriotes congolais qui vivaient là-bas. C'est-à-dire, sur le plan international, la manière dont l'objectif de l'opération était de refouler nos compatriotes. Mais sur le plan international, les normes n'étaient pas du tout respectées. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a aucun rapport.
Posez votre question, s'il vous plaît.
Il n'y a aucun rapport de l'OIM suite à cette opération. Quelle est votre réaction suite à ça? Merci.
Écoutez, il va falloir que je regarde le dossier. Je ne l'ai pas en tête. Je ne peux pas répondre à votre question. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ces Congolais de République démocratique du Congo étaient donc en situation irrégulière ou pas en République du Congo, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient enregistrés. Mais je vais essayer de trouver vos informations. Donc venez me voir avec vos contacts et je reviendrai vers vous. Mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Je suis désolé. Merci.
Merci. Par souci d'équité, nous donnons à Goma une dernière question et je voudrais Oui, un peu de silence, s'il vous plaît. Et je voudrais communiquer aussi bien aux journalistes de Goma que de Kinshasa, que comme nous le faisons de manière annuelle, à l'issue de cette conférence de presse, un pot sera de fraternisation sera partagé aussi bien ici qu'à Goma avec nos confrères de la presse, en remerciement de tous les efforts que vous avez faits pour nous accompagner. Donc Goma, je vous donne la dernière question très rapidement. Dernière question, veuillez rester assis s'il vous plaît. Oui, Goma. Oui, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, messieurs, mesdames. Oui, Goma.
Oui, je disais que je m'appelle Cosmas Mungaz, des journalistes scientifiques et du journal Emergence. Le premier aspect de ma question s'adresse à Sylvestre.
Une question, s'il vous plaît. J'ai dit, excusez-moi, une question.
Oui, elle s'adresse à Sylvestre. Il venait de nous informer que la RDC progresse les 11 places dans le secteur de développement. Ma question est de savoir à qui peut-on attribuer ces succès, aux organisations ou à l'implication des autorités congolaises.
Oui, Sylvestre, vous êtes interpellé au moins à la fin de cette conférence de presse.
Ben, je ne sais pas pourquoi il veut faire cette discrimination. Le fait est que c'est les autorités qui ont la responsabilité de la direction de ce pays. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui mènent les actions. C'est vrai que à côté d'eux, il y a beaucoup de partenaires, notamment les Nations Unies, qui interviennent en appui. Donc si dans ce bloc-là, vous voulez faire une discrimination, je vous laisse la responsabilité.
Oui, merci. Donc, Monsieur Moudigaï vous renvoie la responsabilité de vos déclarations. Donc, je vous disais, donc, merci d'avoir été en notre compagnie pour cette dernière conférence de presse. Je vous rappelle que nous nous retrouvons le 13 janvier 2015, 2016. Merci pour tout. Joyeux Noël et bonne et heureuse année. Restez sur place, nous allons partager un pot de fraternisation pour clôturer l'année. Merci.